France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Dans Que d'espoir, elle met en scène un cabaret de nos petites vies d'humains insuffisants. Pour ce faire, elle adapte le dramaturge israélien Hanok Levin. Valérie Le Sor sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, on fait du neuf avec du vieux, peut-être l'inverse. C'est le programme du plateau critique cinéma du jour. Partir un jour d'Amélie Bonin, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes hier soir. Et puis La Forteresse Noire, un film un peu oublié de Michael Mann, qui ressort en version restaurée. Vous écoutez les Midis de Culture et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Muriel Joudet, auteur et critique de cinéma au Monde, bonjour.
Bonjour.
Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Il est sorti hier soir, ouverture du Festival de Cannes oblige. Partir un jour, c'est le premier long métrage d'Amélie Bonin, qui a remporté le César du meilleur court avec un film du même titre, avec les mêmes interprètes, Juliette Armanet et Bastien Bouillon. La même histoire, qu'est-ce qui se passe quand on est parti vivre sa vie à la ville, loin de ses parents et de ses copains, loin de leur mode de vie et de leurs préoccupations. Sauf qu'Amélie Bonin a voulu varier les plaisirs. Ici, ce n'est pas le jeune homme qui part et qui revient, c'est Juliette Armanet, devenue une chef reconnue, qui se retrouve dans le routier tenu par son paternel, et tout ce petit monde chante. On commence par un avis rapide, Philippe Azoury.
Oui, moi je l'aime bien, ce film, Partir un jour, de façon assez surprenante, parce que c'est pas ma culture, la chanson populaire, mais c'est manifestement la culture d'Amélie Bonin. C'est un film qui est assez peu traversé par le cinéma, on y reviendra. Sa place est étrange du coup, avec être mis en position d'ouverture du plus grand festival de cinéma du monde. On connaît la chanson, mais...
Bravo.
Ça y fallait que je la place. Mais voilà, il est traversé par autre chose, mais je trouve qu'il est sauvé, ça aurait pu le mettre en danger, il est sauvé par cette très très grande croyance dans les pouvoirs de la chanson populaire.
Muriel Joudet.
Moi, j'ai eu l'impression de pas avoir affaire à un film, c'est très bizarre, mais à autre chose qui serait peut-être une sorte d'idée marketing ou d'idée publicitaire ou de film de publicitaire. Et du coup, j'étais gênée aux entournures tout en trouvant le film agréable et très très malin. C'est-à-dire que je pense que ça va cartonner en salle.
On va écouter tout de suite la bande-annonce de Partir un jour.
Salut maman.
Oh ma fille.
Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée?
La question c'est plutôt, qu'est-ce que toi tu fais là?
Bah alors Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde.
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
C'est toi la dame qui a gagné Top Chef?
Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est une chebesse.
Une chebesse! Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite!
Mais c'est pas cool! Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père.
Faut savoir ce qui te fait rire.
Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine.
C'est qui ce mec?
Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec.
Cécile m'a beaucoup parlé de toi.
Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout.
Acharné, mourir ici, dans cette cuisine?
T'as qu'à rester nous aider.
Mais j'ai une vie, putain, papa.
Oh bah ça, on avait bien compris, hein.
Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable.
Mais moi aussi, je le trouve insupportable.
Qui dit crise?
Dit monde, dit famine, dit tiens.
Qui dit amour?
Dit les gosses, dit toujours et dit divorce.
Partir un jour d'Amélie Bonin, Philippe Azoury, c'est la chanson que vous avez retenue plus que le cinéma, de toute évidence.
Non, en fait, je trouve la place accordée à ce film, ce droit d'aînesse, comme ça, d'ouvrir le plus grand festival de cinéma du monde, l'interroge évidemment. Parce que, d'abord, je crois que c'était une surprise, y compris. Ils l'ont appris très très tard. En général, le film ouverture est annoncé parfois des semaines avant, pas forcément le jour de l'annonce officielle de la compétition. Apparemment, la production, la distribution, tout ça, ils l'ont vraiment appris à 9h du soir, la veille de l'annonce. Ils pensaient qu'ils allaient, on allait leur proposer sans doute même une section parallèle, un certain regard peut-être, et on leur a proposé l'ouverture, et apparemment la question c'était mais l'ouverture de quoi? Tellement que ça leur semblait hallucinant, et effectivement je pense qu'il n'y a pas, j'ai un peu regardé, j'ai pas souvenir d'un premier film encore moins d'un premier film de femme, en ouverture du Festival de Cannes. La position du film d'ouverture du Festival de Cannes, c'est pas un genre en soi. On pourrait croire que c'est un film qu'on mettrait en apéro, puisque celui-là touche évidemment à la question de la cuisine. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des films, en grattant, j'étais très surpris. Le Grand Bleu a fait l'ouverture. Je me souviens plus. Basic Instinct a fait l'ouverture. Annette de Léos Carax, il y a quelques années. Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Il y a eu des films catastrophiques. On se souvient de Fanfan la Tulipe. On était obligé de s'excuser. Hein, pardon à tous les fanfans. Pardon à toutes les tulipes aussi. c'était horrible. Des trucs un peu indigestes, type Vatel. Bon, là, il y a ce film-là. Et je crois que c'est dans Le Monde d'ailleurs qu'il y avait la réalisatrice Amélie Bonin se pose elle-même la question. Enfin, est-ce que c'est parce que c'est un premier film de femme? Est-ce que c'est parce que c'est un film court? Le film fait 1h30. Moi, j'ai l'impression qu'il y a dans, je sais pas, enfin, j'essaye de deviner, je le connais pas, chez Thierry Frémaux, le directeur artistique du festival, l'idée peut-être de prolonger ce qu'avait été la cérémonie d'ouverture, l'événement de la cérémonie d'ouverture l'année dernière qui avait beaucoup tourné, qui avait été la reprise de Modern Love de David Bowie par Zao de Sagazan, en disant, mais finalement, pourquoi on mettrait pas ça finalement dans le film? Ce qui veut dire que ça met quand même aussi le film en danger, parce qu'il y a l'idée que Cannes, en tout cas le film d'ouverture cette année, ce serait un peu le CE du cinéma français et ou international qui fait son karaoké annuel. Et du coup, ça me met beaucoup de réticence devant le film, alors que je trouve qu'effectivement le film est, Muriel disait, malin. Je ne sais pas s'il est malin, mais il aime ce qu'il filme.
Et qu'est-ce qu'il filme alors ?
Il filme finalement ce que la chanson fait de nous, ce que la chanson populaire fait de nous. Et ça c'est quand même un vrai sujet. Il y a un sujet de partir, revenir, faire un peu du surplace aussi. Le film fait aussi à certains moments du surplace. Mais il filme vraiment l'idée que la chanson populaire est peut-être le genre immédiat, le genre le plus immédiat, plus que le cinéma, encore plus que le roman évidemment, pour nous raconter. Et là-dessus, c'est
pour raconter une certaine partie, une certaine population.
Non, pour nous raconter tous. Non, oui. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin, je pense que je sais pas si c'est quelque chose que je peux la citer. C'est une très très grande attachée de presse. S'appelle Marie-Christine Damien. Il y a des années, après une fête d'un film de Dardenne à Cannes, m'avait dit, mais tu n'aimes pas la chanson française, tu n'aimes pas la chanson populaire, etc. Mais elle m'avait expliqué ce que c'était. Elle m'a dit, mais il y a rien de plus beau qu'un Nicoletta que t'entends dans un taxi à 4h du matin. T'as envie de pleurer parce que d'un coup, évidemment, c'est à moitié nul, à moitié coupable, mais ça te raconte, ça, c'est ça. C'est resté dans les millions de conversations qu'on peut avoir, ce truc est resté chez moi et m'a appris un peu à écouter un peu plus, à tendre un peu plus l'oreille, à effectivement, de temps en temps, retenir des larmes devant des morceaux. Et là, on voit que dans Partir un jour, ce qui est quand même fort, c'est qu'elle convoque Juliette Armanet, jeune chanteuse, vraiment plutôt appréciée, mais pas pour lui faire chanter de Juliette Armanet ou des compositions, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un film sur la reprise. Ça ne sont que des reprises. Ce sont des reprises de morceaux, enfin, il y a Femme Like You de Camaro, qui je crois hier était à Cannes pour le faire, enfin, ça évidemment tourné au karaoké, oui. Paroles et paroles de Dalida, et il y a évidemment Partir un jour de... C'était qui d'ailleurs? C'était quel boys band?
Les To Be Free.
C'était pas mal. Donc elle arrive quand même à le faire. Et elle le fait sous une forme intéressante. C'est que bon, je trouve effectivement que le film est pas du tout... Le film est pas du tout filmé. Enfin, un point qui est même assez grave. Il est pas du tout habité par le cinéma. Sans doute plus par la télévision, ça aussi on pourra en parler. Mais elle essaye quand même de trouver un système qui se voudrait naturaliste. Pas la Dardenne, il faudrait pas exagérer, mais dans lequel elle fait tout à coup émerger la chanson avec naturel. Et peut-être des fois juste pour 3 ou 4 phrases. Comme ça, justement, pour que la citation vienne ponctuer et vienne nous raconter ou vienne nous rassembler tous, autant qu'on est, devant l'écran. C'est d'ailleurs une vraie aussi, un vrai défi parce que je me suis posé la question, je ne sais pas ce que le critique chinois, américain, japonais, qui va être là, enfin qui a vu ça hier soir, ce qu'il comprend de ça, ou alors peut-être que c'est tellement évident que la chanson, quelle qu'elle soit, même si on la connaît pas, qu'on en voit le pouvoir.
Muriel Joutet.
Oui, moi je pense qu'il y a, ça me paraît très logique que ce film soit en ouverture, parce qu'il y a une obsession, d'après ce que je sens et que je comprends, de toutes les sections de Cannes, d'avoir des succès en salle. Et certains sectionneurs se font remonter les bretelles quand il n'y a pas un film ou deux qui sont porteurs comme ça. Et du coup, celui-ci, pour moi, est un succès programmé. Et du coup, c'est une manière comme ça d'impliquer le public qui n'est pas à Cannes et qui va, je pense que le film vraiment va cartonner. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que c'est un film programme, c'est un logiciel dans tout ce qu'il propose. J'avais l'impression de voir voilà des gros signaux la province versus Paris. Bon, ça c'est une mode qui de fond qui s'est installée dans le cinéma français, c'est-à-dire alors on n'est pas tant dans l'univers white trash comme on peut avoir dans L'Amour ouf ou dans Leurs enfants après eux, mais il y a cette idée la province tant méprisée par Paris revient au cinéma et le film exploite totalement ce filon. Il y a aussi la petite intrigue féministe, va-t-elle avorter ou pas? Et puis on a ce karaoké fait film qui consiste à prendre ce qu'il y a de plus impur dans la variété, Camaro typiquement, je sais plus, il y avait des titres voilà qui dont on ne savait pas que c'était de la variété, comme Femme Like You, dont on s'imagine que ça va être l'hymne de Yannick ces soirées-là, voilà. C'est vraiment des
partir un jour.
Voilà, on va ennoblir la culture populaire, hein, toujours ce mouvement d'ennoblissement de la culture populaire, et le film a comme principal argument que ça en fait. Que ce karaoké matiné de un peu de féminisme, un peu de Top Chef, un peu de Etchebest, un peu de Les Routiers versus Top Chef. Et donc j'ai eu l'impression de voir des ingrédients. Et je suis d'accord avec Philippe, très peu de cinéma. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bizarre, c'est un film sympathique parce que on aime la. En tout cas, moi, c'est vraiment. J'ai été bercée dans la variété, dans Chérie FM, dans toute cette musique, je la connais par cœur. Mais j'ai l'impression que le film s'attribue les qualités de cette variété et que précisément, j'ai l'impression qu'on est dans un moment du cinéma où, comme il n'arrive plus à fédérer, il s'en remet à la musique. Et qu'il n'y a plus que la musique et la variété et la musique populaire qui sont capables de faire pop, mais de faire sale, de faire... et donc, il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. Et j'irais même dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me gêne? J'ai mis du temps à trouver ce qui me gêne dans le film. Je me dis, je ne me sens pas connectée à une cinéaste. Je ne me sens pas connectée aux obsessions d'une cinéaste. Je me sens connectée à une publicitaire, en fait. Et ça, c'est ça, ne pas sentir comme ça qu'il y a quelque chose qui se joue en profondeur. C'est là que le film m'irrite énormément, malgré son charme de surface.
Publicitaire, je suis moins d'accord.
Il y a des pubs, tu vois, Orange qui ressemblent au film, quoi. Les acteurs se mettent à chanter.
Je pense que le film est porté par un petit peu plus de sincérité. Effectivement, ça le met à une place. Mais ce qui est juste, c'est que ça s'en remet à la musique, mais pas simplement qu'à la musique. Et c'est ça qui est très, finalement, problématique dans sa place d'ouvrir le plus grand festival de cinéma du monde, c'est que c'est un film qui acte que le cinéma ne fait plus du tout socle commun avec nous. Qu'est-ce qui fait socle? Bon, la musique, parce que c'est un art immédiat, mais ça a toujours été le cas. Mais le cinéma a été remplacé par la télé, et pas n'importe quelle télé. Enfin, je veux dire, c'est Top Chef, Cauchemar en cuisine, Un dîner presque parfait. C'est ça qui revient tout le temps.
Et puis c'est The Voice,
c'est La Star Academy.
N'oubliez pas les paroles.
Exactement. Ouais, et en fait, c'est ça aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est pas un scoop, on le sait depuis très longtemps que le cinéma a perdu ce pouvoir d'être le grand média fédérateur entre nous. Enfin, plus personne à 13h au resto chinois après à la pause boulot ne parle de films, dans les cours de récréation. Les gens parlaient même de séries. À un moment, c'était la série, mais là, on voit que c'est même plus du tout la série. C'est-à-dire, c'est le programme culinaire. D'ailleurs, c'est toujours autour ou de la chanson ou de la bouffe. C'est quand même les deux trucs.
Le film est une recette et il parle de cuisine.
Et le film fait sa recette à partir de là. Mais c'est très très étrange finalement, on se dit c'est-à-dire que le cinéma aujourd'hui, un festival de cinéma aujourd'hui demande, ou même on se demande pourquoi, mais Amine Bonin par exemple, parce que je pense effectivement que le cinéma la traverse assez peu, l'habite assez peu, et sa surprise d'être en ouverture de Cannes, je pense qu'elle est réelle, elle vient de là aussi. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'elle se revendique comme cinéaste. Elle a quand même le César, mais avec la même histoire. Donc j'ai l'impression que c'est plus, elle a une histoire à raconter dont elle a inversé les termes, et finalement d'ailleurs je pense à raison, c'est mieux comme ça. Mais elle le fait et donc on se dit c'est-à-dire que Cannes acte que le cinéma aujourd'hui filme sa défaite. Filme le fait que le pouvoir du cinéma a déserté, et donc le cinéma filme le règne désormais même plus de la série mais de la télévision et de la télévision qui chante et qui mange.
Partir un jour d'Amélie Bonin.
Qui dégueule aussi des fois.
Avec Bastien Bouillon, Juliette Armanet, Dominique Blanc et François Rollin également en salle donc.
12h 13h30 Les midis de culture. Marie Laborie.
Michael Mann détestait ce qui était devenu son film La Forteresse Noire. Il faut dire que le sujet était déjà corsé. Un film d'horreur dans les Carpates où une force surnaturelle décime les troupes nazies qui ont forcé le sanctuaire où elle repose. C'est alors le deuxième long métrage de celui qui réalisera par la suite Collateral, Heat, Public Enemies. Le tournage lui-même se passe très mal. Le responsable des effets spéciaux meurt en cours de route. Les studios amputent le résultat final de près de 90 minutes, je crois, et les critiques sont désastreuses à la sortie. Reste que le film ressort aujourd'hui en version restaurée. 40 ans après, qu'en reste-t-il ? On commence avec un avis rapide, Muriel Joudet.
Oui, ça pique un peu, mais c'est intéressant de voir. c'est... Pardon,
on va y arriver.
Non, c'est intéressant de le film est intéressant quand on le replace dans l'économie de ce qui est devenu ensuite la filmographie de Michael Mann et puis aussi dans l'histoire du cinéma. C'est ce moment des années 80 où tout devient assez enfantin, assez gadget et comment un grand auteur en fait à un moment répond à une commande des studios qui se passe très mal. Donc l'objet est passionnant à ce titre.
Philippe Azoury.
Moi j'ai une question sémantique, je ne sais plus si on dit Gloubi-Boulga ou Gloubi-Boulga.
Gloubi-Boulga.
C'est glou avec un voilà. Ouais. Parce que j'avais écrit blou, donc voilà. Donc, c'est quand même un gros Gloubi-Boulga, puisqu'on est toujours dans la bouffe et dans aussi l'indigeste. Parce qu'en partir en jour, il y a quand même beaucoup l'idée de ce qui passe, ce qu'on ne digère pas et ce qu'on vomit. Là, ça vomit beaucoup. C'est, contrairement à ma collègue, je dirais une chose, c'est que c'est moins sur ce que ça peut dire de la filmographie à venir de Michael Mann, dont finalement j'ai l'impression que je n'arrive pas à le faire rentrer dans la filmographie de Michael Mann, même si j'ai pas une idée générale théorique très précise de la filmographie de Michael Mann, mais c'est plus ce que ça dit en 1983, à un moment très précis, de ce qu'a pu être l'extinction trop rapide d'un genre pourtant surproduit qui est le film de science-fiction, disons de 1976-1984, et c'est un des premiers grands fracas, quoi, enfin avec perte et fracas.
On va écouter la bande-annonce en VO, bien sûr, de La Forteresse Noire.
There's 108 crosses made of nickel embedded in the walls of the keep.
Where's the owner?
I have no idea.
Who is he?
I don't know.
And what drives people out in the middle of a rainy night?
Dream.
Something has been released.
What do you mean, something?
There's something here. A power.
What's happened to this place?
What's happened is that what was repressed within the keep is spreading into the village.
Evil comes from the axe between man and man.
You know this!
La Forteresse Noire de Michael Mann en 1983. Muriel Joudet, déjà, bon, le pitch est compliqué quand même. Des nazis dans les Carpates qui sont attaqués par une force surnaturelle. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oui, le pitch est déjà en soi kitschissime. Tout comme le film. Alors j'ai lu, pour essayer de comprendre, j'ai lu une interview de Jean-Baptiste Thoré, qui donc ce critique qui a écrit un livre très épais, ouvrage sur Michael Mann et qui a théorisé Michael Mann mieux que personne. Je suis comme Philippe, je sais pas quelle est la ligne directrice du cinéma de Michael Mann. Donc ce que j'ai compris, donc ce que raconte Thoré, c'est que la Paramount voulait surfer sur la vague de Alien et voulait un Alien dans les Carpates, de même que The Thing, qui est je crois un film universal, était aussi surfer aussi sur cette vague-là, The Thing de Carpenter. Ouais. Et donc on est vraiment dans les clous du film de commande, mais ça se passe très mal parce que, comme vous l'avez dit, le superviseur des effets spéciaux meurt en plein tournage et emporte avec lui ses secrets. Donc moi ça m'a pas, tout me semblait un peu carton-pâte, donc ça m'a pas frappé, mais c'est vrai que on sent un film qui assume peut-être son côté carton-pâte ou peut-être qu'il ne voulait pas être à ce point carton-pâte, mais qui là encore a une dimension très kitsch. Et puis je pense que le plus impressionnant, c'est que en fait le film devait durer 3h30 et que la Paramount très mécontente du résultat qui ressemblait pas à un Alien dans les Carpates Vraiment, coupe le film. Alors, moi, j'ai tendance à penser, au vu du résultat, que j'aurais pas voulu voir 3h30 de La Forteresse.
Vraiment, Muriel.
Enfin, en fait, il y a une sorte de romantisme qu'on peut avoir, nous, critiques français, ouais. Sur les director's cut, les versions longues des films. Et moi, je suis un peu plus, j'allais dire nazi. C'est qu'en fait, je crois que parfois, c'est pas que les studios ont raison, mais voilà, parfois, la licence comme ça, enfin, la carte blanche donnée au cinéaste ne donne pas forcément des très grands films et dans ce film, alors, ce qui est très intéressant, parce que je pense qu'on prend, moi, j'ai pris le film comme symptôme, il y a quand même des choses très belles. C'est certaines scènes où, en fait, donc, La Forteresse Noire, à un moment, un démon est libéré et c'est ce qui donne au film toutes ces séquences fantastiques. Et je les trouve très belles et on sent que le film est vraiment fait pour ça et que du coup, quand on est hors scène fantastique, le film est à la peine, il n'arrive pas à avancer et qu'on a une articulation qui ne se fait pas entre les scènes concrètes qui en fait sont juste des scènes d'exposition qui cherchent à justifier les scènes fantastiques. Et on sent que Michael Mann vraiment s'épanouit dans ces moments très Lovecraftiens où se libère cette puissance, ce démon et qui est même presque une métaphore de la mise en scène. C'est-à-dire que je ne sens de la mise en scène que dans les moments fantastiques. Alors après, il me semble qu'on se tape quand même un bric-à-brac philosophique, mythologique, très déplaisant, qui m'a fait me dire, c'est vrai qu'un film qui passe son temps à dire de quoi il parle, et qui passe son temps à dire qu'il parle du mal et du mal qui est en nous, et nanana, c'est pas possible. Et on sent là une sorte de gadgetisation, et qu'on est un peu dans la période Star Wars, et qu'on est vraiment dans les années 80. Et ça aussi qui est fascinant, c'est que Michael Mann fait un premier long métrage, Le Solitaire, qui est pour moi un film. C'est 81, mais c'est
une merveille.
C'est un film absolument magnifique, qui est encore sous influence des années 70. Pour moi, c'est un film des années 70. Ouais. Et là, d'un seul coup, on a Michael Mann qui se plie à une commande et qui fait une sorte de film un peu, voilà, qui prend acte du fait que Star Wars est sorti et qui gadgetise un peu tout ça. Il me semble que Michael Mann a déjà parlé de tout ça, du double, du mal, mais de manière plus adulte. Et là, on a un peu un film pour enfants qui nous explique tout et qui incarne tout. Et à un moment, quand on a cette sorte de golem qui s'incarne, bon, si on est dans les termes d'une série Z, c'est rigolo, mais là, on est dans un film qui est censé être un film d'auteur, et c'est un peu gênant.
Philippe Azoury.
Je suis à la fois totalement d'accord avec Muriel et le double compliqué qui s'exprime. Non, c'est que je suis pas certain que le film soit une commande. J'ai pas vraiment cherché dans ce sens-là. J'ai l'impression, en tout cas, si c'est une commande, dans laquelle Michael Mann s'était beaucoup investi. Le sujet n'est pas de lui, c'est de F. Paul Wilson, pas un très très grand auteur de science-fiction ni de fantastique, mais Michael Mann a voulu reprendre le scénario, lui donner une dimension à la fois philosophique, nietzschéenne, géopolitique, historique. Et je pense qu'on est là où je suis totalement d'accord avec Marielle, c'est qu'on a un film symptôme, on a vraiment le symptôme total d'un auteur qui, Michael Mann a mis une dizaine d'années avant de réaliser The Thief en 81. Dès 68, il tournait d'ailleurs un court-métrage que j'aimerais bien voir sur les événements de mai 68 en France, qui avait eu un prix à Cannes d'ailleurs, c'est le prix de la Palme d'Or du court-métrage, quelque chose comme ça. Ensuite, bon, The Thief est à Cannes, The Thief est célébré en 81, et on est dans le pur miroir d'un jeune cinéaste qui se sent les coups des franges, qui sent qu'il peut y aller, qu'il a son pensum à faire, c'est 3h30, dont il rêve, avec un truc dans les Carpates. Alors on devine le très très grand lecteur de Lovecraft, ça c'est évident, mais également le lecteur de Philippe K. Dick, le K. Dick des Seigneurs du Haut-Château, des choses comme ça. Et on voit qu'il a envie d'y aller. Mais il arrive à un moment qui est quand même assez tardif, parce que 1983, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément depuis l'avènement de Star Wars, en fait. La veine science-fiction, ou la mode de la science-fiction, que ce soit en livre, que ce soit dans la BD, que ce soit dans les magazines type Métal Hurlant, en 83, elle est à ce pic où les choses peuvent se casser la gueule et commencent à se casser la gueule. Parce qu'il y a déjà eu trop, trop de. Il y a eu énormément de chefs-d'œuvre, disons, d'un coup. Il y a eu Star Wars, il y a eu Rencontre du Troisième Type. On a parlé de The Thing, de Carpenter, qui est une merveille. Le Blade Runner, alors je sais pas, j'arrive pas à savoir, ça a dû être tourné à peu près et monté en même temps. Et là, c'est fait avec les mauvaises personnes, c'est fait dans des très mauvaises conditions. Ils ont tourné pendant un an en Angleterre, à des endroits où apparemment il pleuvait du matin au soir, donc le truc s'enlisait littéralement dans un froid de loup. Je trouve que le chef des effets spéciaux est mort en emportant ses secrets, a quand même bon dos, puisque dans la mesure, l'énorme problème du film, c'est pas tant son décor, qui est plutôt très beau, d'ailleurs le château, un truc très Miss Van der Rohe, c'est que rien ne va avec ce qu'il y a autour, à commencer par les acteurs qui jouent seuls. Et mal, enfin c'est quand même.
Et en anglais, on a du mal avec ça.
Mais alors quand les vrais faux nazis parlent anglais, mais les vrais nazis méchants ils disent des mots d'allemand. C'est nimp. C'est une collection de scrogneux avec vraiment à sourcils français, mâchonnants comme ça des trucs. Mais c'est pas poste.
Il n'y a même pas le plaisir du méchant qui se fait massacrer par la.
Non,
par,
mais
par
le monstre. Il y a le plaisir que le monstre. Ça aussi c'est une histoire très compliquée, c'est que le monstre est en process. Il est ridicule quand il apparaît. On dirait un Power Rangers. Mais au fur et à mesure qu'il se réalise, enfin qu'il se compose comme monstre, il devient de plus en plus intéressant. Et quand à la fin, alors c'est assez dommage que la dernière séquence est plutôt très belle et donne l'impression ce qu'aurait pu être le film s'il avait marché. Là, d'un coup, le film commence à opérer. C'est la même chose pour la musique de Tangerine Dream. Alors là aussi, on sait, enfin, Tangerine Dream n'a jamais voulu sortir le disque.
Alors parce Tangerine Dream film. Groupe berlinois.
Berlinois, Krautrock, qui faisait déjà la musique de The Thief avec une sale séquence d'ouverture qui est sublime. Et là, le disque n'était pas sorti à l'époque pour des questions, je crois qu'ils étaient déjà en procès aussi avec les producteurs. On voit que ça, à tous les endroits, ça a pris l'eau, cette affaire-là. Le disque est sorti pour Record Store Day il y a 2 ou 3 ans, je mélange un peu les années, il finit par sortir. Et on s'aperçoit que c'est une bande-son presque trop new wave qui marche pas, et quand vers la fin il tente un truc qui est presque plus opératique, ça prend une certaine dimension, là, la fameuse dimension nietzschéenne que Michael Mann devait chercher. Il y a une mention spéciale quand même pour, il y a une scène d'amour karmique de baise très 70s comme ça, où les gens font le delta plane.
Il y a un côté Adrian Lyne aussi avec les lumières,
oui, exactement,
ouais. L'utilisation des personnages féminins dans les années 80, c'est toujours comme ça. Enfin, ouais, là, pour moi, je trouve que tout est un concentré d'années 80. Et après, ce qui est fascinant, c'est de voir. Je trouve que les cinéastes qui essayent de. Le problème du film, c'est que justement, il passe son temps à à parler de sa profondeur, à parler qu'il est nietzschéen, qu'il est freudien, qu'il est. Et en fait, pour moi, les grands cinéastes américains, justement, ne montrent pas qu'ils sont intellectuels. Et là, c'est un film qui clignote de partout, qui arrête pas de dire à quel point il est profond, et à quel point il est philosophique, alors que précisément, après, Michael Mann va devenir un grand cinéaste théorique, sans en faire des caisses.
Je pense que c'est un peu la leçon du film.
C'est ça. Il y aura une sorte de surface de vulgarité qu'il y a aussi dans ce film. Et derrière, la critique française va voir tout ce qui va se passer théoriquement, philosophiquement dans les films de Michael Mann. Là, tout nous est donné, précisément comme un film, comme un épisode Power Rangers. Donc, c'est un peu gênant.
On va s'arrêter là. Désolé. La forteresse noire de Michael Mann, qui sort donc en version restaurée 4K. Muriel Joudé, Philippe Azoury, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture. Et à bientôt, évidemment, pour vous qui nous écoutez. Toutes les références sont sur la page des Midi de Culture.